enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci beaucoup pour votre accueil. Encore une fois, je suis content d'être avec vous, je suis content d'être ici ce matin et de pouvoir aborder ce thème que je vais aborder avec vous. Le titre du message ce matin, c'est « Retour à la vie ». Je vais tenter d'être assez pratique. Quoi faire lorsqu'on a l'impression d'avoir gâché notre vie, ou du moins d'avoir gâché peut-être pas toute notre vie, mais des grands segments de notre vie. On va regarder au travers de la parole de Dieu, au travers d'un texte que Jésus lui-même a exprimé, une parabole, la parabole de l'enfant prodigue, comment on peut rebâtir les choses, comment on peut rebrousser le chemin quand on s'est dirigé dans une mauvaise direction, et comment on peut retrouver la joie de vivre, retrouver la vie telle qu'elle doit être. Si vous avez l'occasion, vous avez vos bibles avec vous, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Les textes vont apparaître à l'écran, bien sûr. Évangile de Luc, chapitre 15, nous débutons notre lecture au verset 11. Et c'est Jésus qui parle, il dit encore. Un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Un peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires ou d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Ce matin, je veux vous raconter une histoire classique, bien entendu. C'est un classique de l'Évangile, un texte familier, une parabole racontée par Jésus lui-même. Il s'agit d'une parabole qui est qui n'a pas juste éveillé en nous qui sommes des croyants la réalité de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut être pour l'humanité. C'est quelque chose que je pourrais jusqu'à un certain point dire qui a marqué l'imaginaire de l'humanité. Peu importe les cultures, peu importe les endroits, depuis 2000 ans, cette notion d'enfant prodigue fait partie des discussions des gens, fait partie de notre langage. On va parler de quelqu'un en parlant de lui, c'est un véritable enfant prodigue. C'est comme, ça c'est mon fils ou ma fille prodigue et tout ça. Et ça fait allusion, bien sûr, à cette parabole-là. Une parabole qui a marqué l'imaginaire des hommes et, comme vous allez voir à l'écran dans quelques instants, qui a été transmise en image par plusieurs grands peintres. Rembrandt a fait une belle toile sur l'histoire du fils prodigue, le retour du fils prodigue. D'autres grands peintres italiens ont fait la même chose, chacun tentant de mettre en image, de mettre en réalisation visuelle ce qu'éveillait en eux cette notion de fils prodigue. À chaque fois, vous voyez toujours la dimension, c'est excessivement centré sur le père qui accueille ce fils-là, qui est toujours penché humblement, reconnaissant son grand besoin. C'est une histoire qui est marquante par le fait qu'elle met en perspective et en contraste deux choses. La réalité de la nature humaine, profondément perdue, déchue, et la réalité divine qui offre la rédemption. La méchanceté viscérale du cœur humain qui pousse à faire le mal, qui pousse à faire mal, à blesser, et la bonté incomparable de Dieu symbolisée par le Père qui accueille, accepte et transforme. Le désespoir engendré par une vie brisée et l'espoir qui est suscité par, ou qui ressurgit devant de nouvelles possibilités, d'un retour possible. C'est une parabole qui illustre la faiblesse du cœur humain et la force qui irradie du cœur de Dieu est capable de réchapper tout individu. Une histoire touchante de la condition d'homme, de femme et l'inspiration divine qui apporte la restauration possible. C'est une histoire passée, mais tellement actuelle, une histoire qui raconte l'histoire, je dirais, en partie de tous et chacun, de moi, de la condition de bien des gens ici présents, et je dirais de la condition aussi de l'humanité entière qui fuit loin de Dieu et que Dieu aspire dans son cœur de Père tellement de voir rapatrier dans sa direction. Une démonstration, donc, je vous le dis, de la nature humaine, de la réalité de la nature humaine qui pousse les gens tellement loin de la volonté de Dieu. Une parabole qui est un classique, bien sûr. Connaissez-vous l'histoire de ce père qui préparait sa jeune fille de 4 ans pour la nuit, le dodo habituel, bien sûr. Et ce fameux soir-là, il décide de lui raconter la parabole de l'enfant prodigue. Donc, il prend de longues minutes pour lui raconter en détail l'histoire dans ses propres mots de l'enfant prodigue, racontant comment il avait quitté la maison, racontant comment il avait dépensé son argent, comment il s'était retrouvé sans le sou, à manger avec les cochons. Et à la fin, après de longues minutes, il demande à sa fille, « Dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire-là? » Vous savez, c'est toujours un risque quand on pose la question. On ne sait pas ce qu'ils vont retenir, mais le père faisait son effort spirituel comme seuls des pères peuvent le faire une ou deux fois par année. Et la jeune fille de répondre, après de longues minutes, « J'ai compris, papa, le sens de l'histoire. Il ne faut jamais quitter la maison sans sa carte de crédit. » La publicité influence vos enfants parfois davantage que l'Évangile. Mais on a beau pas parler de carte de crédit, je sais pas, c'était pas le problème de l'enfant prodigue, c'est moi vous situer différemment ce matin. Je veux vous encourager à tourner le regard vers cette parabole de Corée, non pas une histoire passée, mais une histoire actuelle. Non pas une histoire dépassée, mais une histoire qui s'inscrit dans nos vies à tous et chacun. Des fils et des filles prodigues qui sont au milieu de nous. De ceux qui, si en ce moment, dans cette enceinte, entendent ma voix, peut-être vous dites, c'est pas moi le fils prodigue, peut-être c'est vous aussi, peut-être que vous êtes venu ici ce matin comme première fois dans cette église en disant, je vais entendre un message et je veux découvrir un petit peu c'est quoi tout ça. Il y a des fils et des filles prodigues dans nos familles, il y en a au milieu de nous, il y en a parfois très près de nous, il y a des gens qu'on connaît au bureau dans différentes circonstances, qu'on dit, on aimerait tellement ça qu'ils reviennent. Pas nécessairement qu'ils viennent, mais aussi qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent dans cette direction de ce que la vie pourrait être pour eux. Ce matin, deux aspects importants que je vais voir avec vous, deux grands aspects qui vont être, bien sûr, divisés en sous-points. Ce que j'appelle de grands détours. La vie qui est détournée de son cours, les 5 erreurs du fils prodigue, ou comment gâcher sa vie, ou comment se perdre sur le chemin de la vie, ou comment perdre son chemin simplement dans la vie. Et en second lieu, le grand retour, les 5 pas du fils prodigue, ou comment retrouver le vrai sens de la vie, comment revenir littéralement à la vie. Parce que cette parabole est une parabole sur la vie, encore une fois. Vous connaissez ceux de Nouvelle Vie ici, que vous êtes habitués à moi. Je suis obsédé par le thème de la vie dans les Saintes Écritures. J'ai beau tenter de m'en éloigner, si c'est plus fort que moi, ça me rappellera tout le temps. Dans cette dimension de retour à la vie, c'est bien sûr d'un retour à la vie telle que Dieu veut nous la donner. Pas quelque chose de malsain, pas quelque chose d'éteint, mais quelque chose de glorieux. Ce que Dieu offre à ce fils-là, ce que Dieu offre à chacun de nous, c'est cette vie qui est au-dessus de la vie des gens, des gens moyens qui ne connaissent pas Dieu, une vie d'épanouissement, ce que j'appelle communément la vie dans la vie. Laissez-moi revenir un petit peu à cette notion de fils prodigue, les 5 erreurs du fils prodigue. Donc, on reprend un petit peu un bout de texte que je vais juste refaire pour vous. La pensée est la suivante. Le père avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. On peut toujours rappeler, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Et bien entendu, comme c'est souvent le cas dans des circonstances où on se retrouve démunis, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Le texte mentionne plus loin qu'il se lia avec un des habitants du pays, qu'il envoya paître des pourceaux, puis il aurait bien désiré manger des carottes que manger des pourceaux. 5 points importants ce matin, 5 erreurs qu'il a fait. Première erreur ce matin, il a été faussé par ses conceptions. Le texte mentionne qu'il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Si vous suivez un petit peu la chronologie du texte, vous allez remarquer que j'ai sauté un peu le début du texte, puis j'ai sauté tout de suite à la direction où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Pourquoi je prends cette notion-là, cet aspect-là à ce stade-ci comme premier point? Il a été faussé par ses conceptions. Parce qu'on en voit la manifestation dans sa propre vie. C'est-à-dire que avant qu'il vive dans la débauche, avant qu'il dépense son bien, quelque chose s'était produit à l'intérieur de lui. Il poursuivait quelque chose. Pour que ça se manifeste de cette façon-là, c'était le résultat d'une certaine conduite, d'une certaine pensée, forme de pensée, ce que je pourrais dire même, une certaine philosophie de la vie. La tragédie de ce fils, c'est vous, c'est quoi? C'est qu'il a rêvé un rêve impossible à réaliser. Ce fils a rêvé un rêve impossible. Dites, écoutez, on parle beaucoup de rêves, c'est important de réaliser des rêves. Je vous annonce une nouvelle ce matin, des rêves sont impossibles à réaliser. Il y a des rêves qu'on ne doit pas réaliser. Il y a des rêves qui ne pourront jamais prendre vie dans la réalité. Des chimères, ce que j'appelle moi des mirages de l'esprit, des fantasmes que les gens se créent dans leur pensée. Ça peut être un collègue ou une collègue avec qui vous travaillez, messieurs, et vous commencez à vous imaginer ce que c'est la vie. Vous êtes en train d'imaginer un rêve qui ne peut pas se réaliser, ou du moins qui ne peut pas se réaliser sans coûter un coup tellement extraordinaire, tellement hors de l'ordinaire. Ce jeune homme croit que son rêve de bonheur est dans la dissolution de ses biens et de sa vie morale. C'est ce qu'il croit au plus profond lui-même. Il y a une conviction profonde, il rêve, il anticipe quelque chose. Est-ce que c'est l'image de la vie des gens riches et célèbres? Est-ce que c'est l'image du jet set? Qu'est-ce qu'il cherche? On ne sait pas trop. Vous savez, les rêves sont grandioses. Ils nous posent dans des réalisations extrêmes, fantastiques, incroyables. L'histoire de l'humanité, j'en ai de rêves excessivement grandioses de gens qui ont fait des œuvres tout aussi grandioses. Il y a des bons rêves qui mènent à de grandes réalisations, que ce soit des toiles de peintres célèbres, comme on a vu, des inventions scientifiques extraordinaires, des pièces de littérature incroyables, des œuvres musicales exceptionnelles qui sont nées dans le cadre de créateurs, d'hommes et de femmes. Mais parfois, laissez-moi vous dire que ce sont de mauvais rêves. Et un mauvais rêve, on appelle ça un cauchemar. Cet individu-là part avec quelque chose dans sa tête. Il y a un a priori à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui le meut à l'intérieur, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants. Mais il y a une conception dans sa tête, parce que ces choses-là n'arrivent pas par accident. Il est en train d'orchestrer sa vie. Il est en train littéralement de traduire dans des actes concrets la philosophie qui l'anime profondément. Ce qu'il veut au juste dans la vie. Ce qu'il veut, il veut quitter la maison paternelle parce qu'il veut vivre quelque chose. Puis je m'entends parler, puis j'entends la voix de bien des jeunes, de bien des gens de nos jours qui veulent vivre quelque chose, qui ont cette soif de trice, cette soif de sensation, cette soif de vivre quelque chose, le bas extraordinaire qu'ils pourraient vivre. Or, il y a un rêve, ils se l'imaginent sans réaliser que ce rêve-là peut tourner au cauchemar, que ce rêve-là va définitivement tourner au cauchemar parce qu'il y a des rêves qui ne peuvent pas se réaliser. Il y a des rêves de bonheur qui ne peuvent pas se réaliser. Cette semaine, j'étais confronté à un jeune à mon bureau qui a un problème majeur de toxicomanie. Et c'est fascinant parce que il y a des moments où on rentre littéralement dans l'âme de l'individu, qu'on le dissèque. On voit cette réalité-là. Puis je lui disais, dis-moi à quel moment où la tentation est la plus forte. Il dit, t'aimes-tu ça en prendre? Aimes-tu sentir le crack qui rentre en dedans de toi? Il dit, non. Il dit, ça, c'est fini, je suis pas là. Il dit, c'est juste l'espace avant. Il dit, c'est juste dans ma tête, c'est juste dans mon imaginaire. Quand j'imagine ce qui va se produire. Parce que là, ça commence à se produire, et année après année, dans son cas, ça fait une dizaine d'années qu'il est accroché au crack. Il essaie, c'est pas la dose, c'est pas l'expérience, c'est pas la nuit passée dans les ruelles de Montréal, c'est pas ça qui... Ça c'est le désespoir total. C'est l'espace de temps juste avant, où le rêve est là, où l'illusion est là, de croire que ces choses vont arriver. Et ce que j'essaie de faire, puis ce que je priais pour faire, c'est qu'il peut juste modifier son rêve. Si je peux modifier son rêve, si je peux l'amener à croire que c'est une chimère dans laquelle il croit, on va commencer à changer des choses. Et bien souvent, on a l'expression québécoise qu'on appelle « crever la balloune ». Ou à ce moment-là, on prend conscience que ça n'a pas d'allure ce que je suis en train de penser. Je suis parti sur un voyage imaginaire qui ne se réalisera jamais. L'erreur première de ce fils-là, de ce garçon-là, c'est qu'il a réalisé un rêve impossible à réaliser. Il a imaginé un rêve impossible à réaliser. Il a été faussé dès le départ par sa conception. Faussé dès le départ par sa conception. Il a cru profondément à l'intérieur de lui que l'important dans la vie était de faire ce qu'il lui plaît, ce qui lui plaît. Deuxième erreur ce matin. Ce fils prodigue, il a manqué de réflexion. Encore une fois, c'est intéressant. Le texte mentionne que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint et il commença à manquer de tout. La tragédie ici, c'est qu'il n'a pas pensé plus loin que le bout de son nez. La tragédie de ce fils provient aussi donc de ce manque de réflexion. Il a une idée en tête, il est obsédé, il est envoûté, il est obnubilé, il est aveuglé par ce qu'il vise, ce qu'il dirige, ce qu'il vise littéralement. Il pense à sa défense, mais il n'oublie pas que les choses peuvent arriver à une certaine limite. Il n'a pas pensé qu'il pouvait manquer d'argent. Il a pensé qu'il pouvait dilapider tout ça. Il a pensé qu'il pouvait vivre le temps présent sans jamais penser au lendemain. qu'il n'a jamais imaginé qu'il pouvait se retrouver en disette. Il n'a pas pensé que cette route poussiéreuse sur laquelle il marchait pour se rendre dans ce pays lointain était le chemin qui menait à la mort, à la disette, à la destruction. Il n'a juste pas pensé. Il n'a juste pas réfléchi à des choses. Il y a des moments dans la vie où on se retrouve dans des dimensions où on dirait que la vie va tellement vite qu'on ne s'arrête pas pour réfléchir. Moi, je crois que dans le tumulte de la vie moderne, c'est une des stratégies qui est déployée par le prince de ce monde de nous empêcher de nous arrêter et de réfléchir. De réfléchir au coût associé à telle dépense, au prix associé à telle décision, à telle direction qu'on prend dans notre vie. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'étais adolescent, 4 ou 5 ans de cela, j'étais un amateur avec mon frère aîné de canoë camping et tout ça. Et on allait souvent dans le parc national de la Mauricie, puis à l'occasion, on faisait des descentes de rivière. Et je me souviens des moments fatidiques qui ont changé le cours de notre vie et de notre carrière comme canoë. C'était la fin, cette fois-là, de l'événement. Où on était en train c'est un beau dimanche après-midi ensoleillé comme aujourd'hui, on s'en allait pagayant tout doucement, regardant un tout petit peu ce qui se passait autour sur les rives de la rivière. On descendait, puis quand à un moment donné, on a commencé à entendre le bruit des rapides, le bruit de fameux chuchotement d'un rapide. Et si vous avez remarqué, vous avez déjà fait des sports en plein air, vous apercevez que les rapides n'ont pas le même son en aval qu'en amont, ou en amont ou en aval. En aval, je ne sais pas ce qui est le premier, en tout cas, avant les rapides et après les rapides, ça n'a pas fait le même son. Ce qui fait, c'est que ça nous mêle souvent parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus petits qu'ils sont en réalité. Et d'aller voir une rivière qui descend dans une direction et de la voir lorsqu'elle s'en vient, c'est pas la même vision des choses. Vous me suivez dans tout ça? C'est pas trop compliqué dans les, longtemps que j'ai quitté cet univers-là. Et à un moment donné, on commence à sentir le canot qui commence un petit peu à brasser. Et nous, dans notre imaginaire de petits Québécois, pas très, très, très riches, on se dit, écoute, on va y descendre les rapides. Mais là, il y a une affaire. Il faudrait que c'est le seul canot qu'on a, faut pas perdre notre canot. Fait que, moi, en écoutant comme mon courage, j'ai eu une idée brillante, j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, pour perdre le canot, je vais m'attacher après le canot. OK? Pourquoi vous riez tant que ça? Vous êtes pas en train de vous moquer de moi, ce matin? OK? Donc, je prends la fameuse corde de nylon jaune et je m'attache après ma ceinture de sauvetage. On avait juste une ceinture, même pas une veste. Et à un moment donné, on continue à pagayer, puis à un moment donné, vous imaginez le tableau qui est arrivé, c'est que les rapides sont de plus en plus forts, puis à un moment donné, le canot bascule, OK, il se retourne face à la direction de la rivière, et l'eau s'est engouffrée dedans. Mon frère est parti, mais moi, je suis parti. Mais moi, je suis le canot en arrière, un peu comme quand on tire quelque chose comme ça, et je suis balotté de tout bord, de tout côté, puis là, je bois la tasse, puis le canot commence à descendre dans le fond, puis il finit par remonter, mais sur lui, il flottait, mais la rapidité où lui a remonté, la rapidité que moi, j'ai remonté, c'était pas à la même vitesse. Et là, je suis sorti de là à moitié étouffé, et là, je regarde tout ça, et vous savez, après les rapides, il y a toujours un calme incroyable. Et là, tout s'arrête, espace un instant, on dirait que j'étais bel et bien vivant, c'était pas la lumière, j'ai pas vu de lumière, rien de ça, là, sur le chemin et tout ça. Mais là, je me mets à réfléchir, puis d'un coup, les secondes semblent longues, mais je vois pas mon frère. Et là, dans ma tête, la première pensée qui me monte à l'esprit, c'est, qu'est-ce que ma mère va dire si je reviens à la maison sans mon frère? Puis c'est mon frère aîné. Première pensée, j'ai pas pensé à autre chose, mais pas pensé à ma propre condition, ça vous demande l'altruisme qui anime ma vie profondément, même à cet âge-là. Et là, tout d'un coup, les secondes passent, puis je trouve pas mon frère. Et là, je me dis, il est noyé, quelque chose qui est arrivé, puis là, après ça, il est remonté de la surface, puis là, je l'ai vu, puis là, on a passé un bon 15-20 minutes à trembler sur le bord de la grève, de la rivière, en disant, la pensée, c'est que j'ai pas pensé plus loin que le bout de mon nez. J'ai pas imaginé quelque chose. Je n'ai pas, à ce stade-là, au tout début, avant de prédire dans le cœur de ces rapides-là, j'ai pas pensé au scénario le plus pire qui pourrait se passer. J'ai pas envisagé le danger possible. C'est des jeunes garçons, pleins de testostérone, qui veulent vaincre la nature, puis on n'a pas mesuré l'impact que parfois la nature est plus forte que nous. C'est comme ces jeunes, comme ce fils prodigue, qui n'imagine pas que la vie peut être plus forte que lui, qui ne peut pas contrôler la famine et la nature, qui ne peut pas contrôler les acts of God, qui ne peut pas contrôler tout ce qui peut se produire. La seule chose qu'elle a le pouvoir, c'est sur nous. Et bien sûr que lorsque ce pouvoir-là est empreint de sagesse, il nous permet de faire des choix beaucoup plus judicieux. Le problème de ce fils prodigue ce matin, c'est qu'il a manqué profondément de réflexion. Il est parti sans réfléchir. Il a cru que l'important dans la vie était de faire tout ce qui lui plaît sans se soucier de ce qui arrivait. Troisième erreur ce matin. Il a agi avec précipitation. Peu de jours après, il rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. En québécois, je m'excuse pour la communauté française qui est ici, on appelle ça partir sur un nowhere. Tu t'en vas, tu packes ta voiture et tu t'en vas, tu sais pas vers quelle destination. Le texte mentionne qu'il est parti pour un pays lointain sans direction. Le pays n'est pas nommé, la contrée n'est pas nommée, sans but précis. Comment arriver à la destination sans direction? Comment faire pour savoir où on va si on ne sait pas où on s'en va? Comment on fait pour savoir qu'on va arriver lorsqu'on ne sait pas où on veut arriver? Et encore une fois, regardez ce fils prodigue-là part de la maison. Il quitte la maison de son père et s'en va dans une direction. On ne sait pas s'il a pris son havre-sac, son pack-sac le matin. Il est parti avec sa fortune dans son dos. Là, il part. Il quitte sur une route poussiéreuse, j'imagine, à l'époque, bien sûr. Il est parti avec une bourse pleine. Il est parti avec plein de cash dans les poches. Il est allé chercher une portion de son héritage. Il part avec ça. Il est parti avec une bourse pleine, mais il va revenir avec les poches vides. Il est parti la tête pleine de rêves. Il va revenir le corps plein de remords. Il est parti avec de beaux habits. Il va revenir avec des vieux vêtements de fortune. Il est parti, littéralement, dans mon imagination, sentant le parfum, et il va revenir sentant, disons, la nature. Porcine. C'est moi qui vous dis ce matin qu'au lieu de sentir le Paco Rabanne, il sentait la vieille cabane. Une de plus, qu'au lieu de sentir le parfum éternité, il sentait davantage les petits pieds. Ah, voulez-vous un autre? J'ai passé un heure là-dessus. Au lieu de sentir le Chanel, il sentait les aisselles. Au lieu de sentir le Hugo Boss, il sentait le gars qui revenait d'une brosse. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il a agi avec précipitation, au-delà des blagues. Il a agi avec précipitation. Il a cru que l'important dans la vie était de faire tout ce qui te plaît et de plonger sans regarder. Pas imaginer le scénario qui pourrait se présenter à lui, qui pourrait être inversé. Quatrième erreur de l'enfant prodigue, il a pris personne en considération. Le texte mentionne qu'il s'approchait de son père et dit, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Maintenant, si vous avez remarqué la subtilité du texte, la Bible dit que le père, le texte ne dit pas que le père lui donnait une portion de son héritage, le texte mentionne que le père leur partagea ses biens. Autrement dit, dans la décision qu'il prend de prendre la part de son héritage, il est en train aussi d'affecter la vie de sa famille. Il n'a pas pris en considération les gens qui étaient autour de lui. C'est quoi quelle l'implication ce matin de cette requête simple? Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. On entend ça, moi, je dis, écoute, il demande juste un bout, il a besoin d'argent, il a besoin de financement pour sa grande marche vers la réalisation de ses rêves. Est-ce que c'est une requête d'ordre habituel dans la culture de ce pays-là? La réponse est jamais. Quand on fouille des historiens, on fouille des théologiens qui se sont penchés sur ces textes-là, ils disent que cette requête-là, c'est une requête impossible. Quand vous parlez à des gens de ces contrées-là, ils vont vous dire qu'un fils ne peut pas demander ça à son père. Que le fils qui demande ça à son père s'assure d'une belle correction. Il s'assure qu'il va être littéralement battu par son père. Tu ne demandes pas ça. C'est quelque chose que ton père donne, mais c'est pas quelque chose que tu demandes. C'est quelque chose qui est accordé par le fait que tu fais partie de la famille, mais c'est quelque chose que tu ne demandes pas. Maintenant, la question qu'on va se poser ce matin, c'est pourquoi ça se demande pas? Parce que la culture de l'époque ne permet pas de le demander dans un premier temps. Il y a cette espèce de respect de la hiérarchie des rôles dans la famille, de côté patriarcal. Mais la deuxième raison, c'est que le fils, en demandant une part de son héritage, prive son père de quelque chose. C'est un peu, donné en termes de langage moderne, c'est un peu comme si moi j'avais une compagnie avec mes deux fils, où on est co-actionnaires, puis du jour au lendemain, mes deux fils me demandent leur part. Je prends mes parts. Maintenant, en prenant mes parts, ils me privent de ce que j'ai. Je me retrouve avec un partenaire ou un partenariat minoritaire et ma vie est faite. Le père, littéralement, dans ce contexte-là, lorsque le fils lui demande son héritage, il sait que sa vie est finie. Il sait littéralement que lui est fini, il va se retrouver sa disette parce que le fils lui demande la part de son héritage. Maintenant, c'est fascinant, encore une fois, parce que on voit dans le texte, et le père symbolise la grandeur de Dieu, le texte ne mentionne pas que le père a réagi, ne mentionne pas que le père a supplié à genoux, ne me fais pas ça, pars pas avec la fortune familiale. Et non seulement le père vit ça, mais le texte mentionne, on le voit vers la fin du texte aussi, que le frère réagit à tout ça aussi. Lui, il est parti, il a dilapidé les biens, puis moi, je fais quoi avec ça? Et c'est tellement contemporain parce que beaucoup de drames familiaux se manifestent dans cette dimension-là. Monsieur n'aime plus madame, Monsieur s'en va avec la secrétaire, mais lui, il pense pas que ça, ça affecte madame, que ça, ça affecte la fille aînée, puis le garçon, puis toute la famille, tout ça. Mais on pense pas à ça parce qu'on on est envoûté, parce qu'on a découvert l'amour. J'ai découvert que je peux pas passer ma vie sans amour. Oui, mais regarde ce que ça va créer autour de toi, par exemple. Regarde l'impact dans la vie des gens. Il y a des moments dans la vie où on doit prendre en considération les personnes parce qu'on ne peut pas vivre sur Terre sans être en relation avec les gens. Les décisions qu'on prend comme être humain ne sont pas des décisions isolées, c'est des décisions qui affectent toujours les gens. Maintenant, je ne dis pas ça ce matin pour vous condamner ceux qui avaient vécu des moments comme ça. Je vous amène pour vous responsabiliser en disant, et oui, effectivement, vous avez beau faire les choix que vous voulez, vous devez prendre en considération les gens quand vous faites des choix judicieux. Ça, c'est la réalité. Le problème de cet enfant-là, de ce fils-là, c'est une de ses erreurs de sa vie, une des erreurs majeures de sa vie qui, par la grâce de Dieu, va être rétablie. Il a cru que l'important dans la vie, c'était de faire tout ce qui lui plaît et de penser à soi au lieu de penser aux autres. Cinquième erreur du fils prodigue. Il s'est soumis à ses passions. La Bible dit qu'il est parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. L'objectif était clair dans sa tête. Il va se payer du bon temps. Un autre aspect de la tragédie inévitable que le fils prodigue devait vivre provient du fait qu'il a permis, écoutez-moi bien, aux aspects sombres de sa nature humaine de prendre le dessus sur lui. Il a permis à des aspects inférieurs de sa nature, de sa condition, de supplanter des aspects supérieurs. Pour parler en termes de chrétien, il a permis à sa chair de prendre le dessus sur les voies de l'esprit. Littéralement, il a permis, en termes encore de langage chrétien biblique, à son vieil homme de supplanter son nouvel homme. Chacun de nous, et ça même ma femme, vous savez comment c'est dans le mariage, je m'en allais avec ma femme de la conduire à son travail. Puis elle me pose une question, spontanément, comme seule une femme peut... D'ailleurs, j'ai pas demandé pourquoi qu'elle posait la question, pourquoi qu'elle pensait à ça à ce moment-là. Puis elle me dit dans la voiture, « Crois-tu... » Peut-être qu'elle se sentait menacée, je ne le savais pas. « Crois-tu que tu pourrais tuer quelqu'un? » Ma femme me pose, « Chérie, j'ai pas de tatou, là, j'ai pas de... Je suis un bon père de famille, je suis un pasteur avec une nouvelle vie, la pensée d'un meurtre dans ma tête, j'ai jamais fomenté rien. As-tu peur pour toi, chérie? J'ai-tu laissé paraître quelque chose que je voulais entrer avec toi? J'ai-tu augmenté tes assurances? De quoi t'as peur? » La question, c'est, est-ce que tu crois que tu pourrais faire des choses ou tu ne crois pas que tu pourrais les faire dans certaines dimensions? Crois-tu que tu serais capable des plus grandes bassesses? La réponse est bien simple, rigoureusement, honnêtement, absolument. Je suis sûr que je serais capable de tuer quelqu'un si je me force un petit peu. Quand je ne demande pas d'avoir peur de moi dans les couloirs, simplement une reconnaissance que je sais qu'il y a aussi quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi. Pas personne, une portion de ma nature. Une lutte entre deux natures. Une lutte qu'on voit transparaître parfois sur le pont Jacques-Cartier, certains jours de grands embouteillages. Certains moments, lorsqu'on est pris au coin de l'échangeur ou ce qui est inondé deux fois en deux semaines. Il y a des gens que leur « bad self », qu'on appelle en anglais, le côté sombre de leur nature peut prendre le dessus. C'est pour ça qu'il y a des rages au volant, c'est pour ça qu'il y a des aspects comme ça. Maintenant, ce fils-là est comme un élément délibéré dans lequel il a permis à ses passions de prendre le dessus sur sa vie. Il a permis à cette portion de sa nature de prendre le dessus. Et la stratégie, c'est pas de nier cette nature-là, c'est de composer et de maîtriser cette nature-là par la grâce de Dieu. Il a cru que l'important dans la vie était de faire tout ce qui lui plaît et de satisfaire ses passions sans restriction. Fascinant. Et ce fils se retrouve dans cette condition-là. Fascinant parce qu'au moment où, dans cette progression-là, il se retrouve à manger avec les pourceaux, en fait, il n'a même pas mangé parce qu'il avait aimé se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, le texte mentionne que personne ne lui en donnait. Maintenant, c'est fascinant parce qu'il y a comme un espace dans le temps entre le passé et le futur. Il y a des moments dans la vie, et c'est peut-être le cas de certaines personnes ici ce matin, où vous vous retrouvez un peu en plein centre de deux aspects de votre vie. Vous supposez ce qui s'est passé. Vous regardez le chemin parcouru jusqu'à ce jour et vous imaginez ce qui pourrait se produire. Maintenant, j'aimerais vous dire que lorsqu'on a vécu un long chemin de désespoir, que ça serait comme tout à fait simple de s'imaginer qu'il faudrait que ça aille bien dans le futur. Mais la plupart des gens pensent davantage en termes de prolongement de leur désespoir qu'en termes de changement. Les gens ont beaucoup plus de conviction dans la pensée de « ça ne changera pas », que c'est mon destin, que j'ai une force plus grande que moi qui est déterminée et déterminante, qui va m'amener dans une direction que je ne pourrais pas rien faire. Mais très peu de gens réalisent, ça va être les points que je vais vous suggérer dans quelques instants, qu'il y a une série d'étapes qui peuvent passer, ce que j'appelle les pas du fils prodigue qui vont le ramener vers la maison. D'une décision tellement importante à l'intérieur de lui, vous allez voir dans quelques instants, qui l'amène à changer des choses. Et le message ce matin, c'est un message d'espoir. Je prends pas trop de temps sur les 5 erreurs du fils prodigue, parce que je pense que vous savez bien que c'est souvent ce qu'on fait dans notre vie, même dans des décisions toutes simples de la vie de tous les jours, où on fait des choix très peu réfléchis, on agit souvent avec précipitation dans toutes sortes de choses. Mais il y a aussi un message d'espoir extraordinaire que les choses peuvent changer. Que si, au moment où je prends conscience, si vous êtes ici ce matin, je prie pour un divin pop-up dans votre pensée. Poc! Ça l'ouvre. Puis là, je dis, peut-être, Seigneur, je peux changer quelque chose. Peut-être, Seigneur, en ce moment, ce matin, ça peut être un des jours les plus importants de ma vie. Peut-être, en ce moment, c'est une bombe sur le chemin de ma vie. Peut-être, en ce moment, je suis à une intersection de ma vie, un carrefour où les choses peuvent changer. Et les choses vont changer dans la mesure où vous décidez quelque chose ce matin. Et moi, c'est pas ma responsabilité de vous changer. C'est votre responsabilité à vous. Moi, ma responsabilité, c'est de tenter de vous traduire, de vous convaincre, de vous exprimer le plus possible comment vous pourriez faire à la lumière des Saintes Écritures. L'intention de Dieu, c'est bien sûr d'essayer de vous convaincre par la puissance du Saint-Esprit de faire cette œuvre de conviction. Mais à la fin, la décision finale de base, elle vous appartient à vous. C'est vous qui devez décider parce que c'est vous qui êtes en charge de votre vie, de votre nature. Dieu est pris avec votre volonté. Il ne peut pas contraindre votre volonté, mais si vous ouvrez votre volonté, vous allez avoir un déploiement de grâce et de puissance extraordinaire. Dieu est limité dans votre vie par votre propre volonté. Mais si vous dites « oui, je le veux ce matin », quelque chose de merveilleux, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de fantastique, toute une nouvelle direction pour prendre, peut se produire dans le cadre de votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? 5 pas du fils prodigue. Premier pas, une douloureuse réflexion. Une douloureuse réflexion. Étant rentré en lui-même. La Bible dit, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Pourquoi une douloureuse réflexion? Pourquoi j'utilise le terme « douloureux »? Pourquoi c'est douloureux parfois de réfléchir? Pas dans le processus de réflexion proprement dit. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire le grand constat. Il y a des moments dans la vie où on doit regarder ce qu'on n'a pas du tout le goût de regarder. Qu'il y a des moments dans la vie où on doit entendre ce qu'on n'a pas toujours le goût d'entendre. De regarder notre rôle, ça peut être notre rôle de mari, de femme, de père, de mère, de fils, de fille, d'employeur, d'employé, regarder ce qu'on n'a pas le goût de regarder, regarder notre vie, ce que nous avons fait, regarder le chemin parcouru, regarder ce que nous avons réalisé, regarder ce que nous avons manqué, regarder ce que nous avons raté. C'est douloureux. Le texte mentionne qu'il est rentré en lui-même. Mais, vous savez, dans la subtilité du langage, la dimension de rentrer en lui-même, vous, c'est ce qu'on reçoit comme image, de rentrer en soi-même, c'est un peu comme une image d'introspection. Il a plongé à l'intérieur de lui, puis il est allé voir les choses. Il dit, oh, ça marche pas mon affaire. Mais le vrai sens du texte, c'est pas étant rentré en lui-même, c'est étant revenu à lui-même. Et là, c'est fascinant dans la dimension parce que, encore une fois, l'histoire du fils prodigue, c'est qu'il quitte un état, le foyer, la maison, pour s'en aller dans un pays lointain. Encore une fois, on parle de... C'est une analogie, on appelle ça une métaphore. Il quitte un état pour s'en aller dans une autre direction. Et la meilleure image que je pourrais vous illustrer, c'est un peu comme quelqu'un qui était tombé sans connaissance et qui est revenu. Ah, il est revenu. OK, il est revenu. Là, on pensait que... Ou quelqu'un qui a perdu conscience puis qui est revenu. Le sens de l'expression, c'est davantage ça. Autrement dit, le fils prodigue se retrouvant avec les pourceaux, tout d'un coup, son cerveau s'est mis à réfléchir, comme disait un politicien d'une certaine époque. Et là, à ce moment-là, il dit, écoute, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et là, il s'aperçoit qu'il est deux êtres, qu'il est devenu ce qu'il n'aurait pas voulu être. Que c'est qui je suis? Qui suis-je rendu au juste? Qu'est-ce qui se fait? Et vous savez, on parle beaucoup de transformation à l'Église ici, dans toutes sortes de circonstances, mais si vous pourriez imaginer l'état de déformation de quelqu'un qui décide de quitter un état pour entrer dans un autre état. La dégradation d'un être humain, jusqu'où ça peut se rendre? Dans la moralité, dans la sexualité, dans cette pente descendante jusqu'où les gens peuvent glisser, dans leur conduite, dans leur relation avec les gens, dans toutes sortes de circonstances. Et là, c'est un peu comme si ce fils prodigue-là prend conscience, l'espace de matin, où je suis rendu, mais ce que je suis rendu, le texte mentionne qu'il est revenu à ses sens. Oups, c'est pas moi ça. Et profondément, c'est pas moi. Et j'aimerais vous dire que, je ne veux pas juste trop plonger dans cette direction-là, mais c'est une immense image de l'humanité. Quand on regarde la Terre, quand on regarde où l'humanité est rendue maintenant, lorsque vous regardez les nouvelles, on regarde ce qui vient de se passer à Londres récemment, encore une fois, il y a quelques jours à peine, jusqu'où l'humanité est capable? La question que je me pose, est-ce qu'on va être capable de retrouver nos sens? Est-ce qu'on va être capable de reprendre connaissance? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu une absence, l'espace d'un instant. Il faut revenir à soi-même. Maintenant, pour que l'humanité revienne au complet, ça va prendre la somme de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains qui, individuellement, vont revenir à eux-mêmes. Revenir à l'été de ce que Dieu veut pour eux. Il s'est mis, ce jour-là, à écouter l'autre côté de sa personne. Pas le côté inférieur, le côté supérieur. Le côté noble, le côté créé originellement à l'image de Dieu. Le côté que la vie, c'est pas ça. Que la vie, c'est pas juste de coucher des prostituées. Que la vie, c'est pas juste de la débauche. Que la vie, c'est pas juste du vol. Que la vie, c'est pas juste de mentir. La vie, c'est pas juste de flouer. On a un autre aspect de notre vie qui a besoin de reprendre le dessus. De faire les choses, une portion courageuse, une portion noble, une portion supérieure, une portion qui nous amène à faire des actes tellement extraordinaires. Puisque ce qu'il y a de plus laid qu'un être humain qui affecte négativement un être humain, il y a de plus beau, de plus fascinant de voir des humains se servir, pas se servir, mais servir d'autres êtres humains, de participer à la tâche, de prendre soin des uns des autres. Est-ce que vous me suivez ce matin? Étant rentré à lui-même. Première clé, premier pas ce matin, une douloureuse réflexion. Deuxième pas ce matin, une rigoureuse évaluation. Combien d'employés chez mon père? Si vous suivez le texte, vous remarquez que commence à faire des comparaisons. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? C'est moi, ici, je péris à cause de la famine. Il fait une comparaison. Il compare deux états. L'évaluation rigoureuse, c'est quoi? C'est de regarder les choses qu'on n'a pas toujours le goût de regarder. L'évaluation de quelque chose peut être quelque chose de réellement difficile. Vous savez, dans mon domaine à moi, le soin pastoral, la relation d'aide, il y a un côté fascinant qui est la compassion, qui est le soutien, qui est l'encouragement. Ça, c'est la portion que tout le monde rêve. Quand vous entendez parler de moi, j'aimerais tellement ça aider quelqu'un, là, parce que vous avez une image un peu comme ça. Vous avez une image de quelqu'un qui est meurtri, blessé, là, vous donnez un bon conseil judicieux, vous mettez la main sur l'épaule, et c'est ce geste-là qui a transformé sa vie. C'était un moment important dans sa vie. Mais maintenant, vous dire que c'est juste ça, ça serait mentir. Et c'est là que le bas blesse pour beaucoup de gens, parce qu'à un moment donné, dans notre travail, il faut dire des choses qui sont pas toujours agréables à dire. On doit amener des gens sur le chemin d'effectuer des correctifs dans leur vie, sur le chemin d'évaluation. Je regarde des mariages, je regarde des familles, je regarde des vies. Maintenant, la plupart des gens voudraient balayer tout ça en dessous du tapis en disant, écoute, on va laisser faire, on peut-tu repartir à zéro sans évaluer tout ça? Non, on peut pas repartir à évaluer. Si tu veux que le travail se fasse correctement, ça prend une évaluation rigoureuse de ce que tu as fait. Pas parce qu'on doit se mettre le nez dedans, mais pour que tu puisses apprendre à tirer les leçons de toutes les erreurs qui sont faites, parce que toute l'histoire, à la fois de l'humanité puis de chacun des individus, nous démontre qu'on ne retient jamais des leçons de notre propre vie et que c'est souvent une succession d'erreurs répétitées, récurrentes et redondantes. C'est ça l'histoire de la vie de bien, bien des gens, de trop de gens, à mon avis. Alors, la rigoureuse évaluation, c'est la capacité qu'on a de regarder ces aspects-là. Pour un employeur, de dire à ses employés, écoute, on t'encourage, c'est bon, c'est le fun, c'est super ce que tu vis, mais que passer à une évaluation chez ton employeur, c'est quelque chose de plus délicat. Surtout lorsqu'il y a des choses à dire. Il y a à l'intérieur de chacun de nous cette résistance profonde à ne pas vouloir se faire dire les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Mais pour qu'une évaluation soit efficace, il faut qu'elle me pousse à regarder ce que j'ai pas le goût de regarder, ce que je veux pas voir. Il faut à entendre ce que je veux pas entendre, à découvrir ce qui est caché à l'intérieur de moi, mais qui me pousse dans une direction. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis devenu au juste? Je travaille pour un habitant qui, auparavant, je vivais avec un seigneur, avec un homme riche. Je vis avec des porceaux, mais est-ce que je suis un porceau? C'est tout ça ma vie? C'est ça que je dois faire? Regarde où je suis rendu. Proverbe 4, verset 30, verset 26 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Pour une rigoureuse évaluation soit profitable, il faut qu'elle mène dans trois directions. Je vais y aller rapidement, le temps passe. Trois directions. Premièrement, ça va avec une déclaration d'intention. Si vous suivez le texte, à un moment donné, le jeune homme, après avoir fait cette comparaison, cette évaluation, réalisant combien d'employés chez son père ont du pain et que lui n'a rien, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai et j'irai. Je me lèverai, j'irai, je vais aller le voir, je lui dirai, papa, ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait, tout ça. » Mais ça, on appelle ça une déclaration d'intention. Littéralement, le mot « intention » vient du mot « entendre ». C'est comme s'il est en train de se parler à lui-même. Il est en train de se dire quelque chose. Vous savez, vous connaissez le texte qui dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous, souvent, on a l'impression que l'intention, c'est quelque chose de négatif. Ça change pas grand-chose. Mais j'ai une petite définition de mon cru, qui est la pensée suivante. L'intention n'est pas seulement le prélude à l'action. C'est aussi une force intérieure qui déploie son imagination pour créer une nouvelle réalité. Dans une intention, tu commences à imaginer quelque chose. Dans l'évaluation, tu compares. Mais dans l'intention, tu te dis, écoute, il faudrait que je fasse quelque chose. C'est un point de vue intérieur. C'est la naissance de quelque chose à l'intérieur de vous, de soi. C'est comme, on veut tenter d'aller dans une direction. Le mot intention veut dire, je m'entends avec moi-même. Je laisse faire les gens autour de moi, je le fais pas par pression, parce que les gens m'ont forcé, parce que je sens que Dieu. Non, je m'assois avec moi-même, puis je m'entends avec moi-même, puis là, je déclare quelque chose. Une déclaration d'intention, une manifestation intérieure de ce que je veux réellement dans la vie. Une rigoureuse évaluation mène vers une déclaration d'intention. Une rigoureuse évaluation s'amène aussi vers une nouvelle direction. Le texte mentionne, je me lèverai, j'irai vers mon père. C'est pas juste, ouais, hein? Ça n'a pas d'allure ce que je veux, il faudrait bien que je fasse quelque chose, hein. Là, il y a une direction précise. La chose qu'il faut que je fasse, c'est que je vais voir mon père. C'est là que le problème a commencé au départ. Je suis parti d'un point dans ma vie, puis je suis allé dans une autre direction. Je vais revenir à ce point-là. On va commencer à résoudre des choses telles qu'elles devraient être résolues. Je vais affronter les choses. Et le texte, encore une fois, mentionne que je me lèverai et j'irai vers qui? Vers mon père. Vers mon père. Une nouvelle direction. La chose la plus importante en ce monde, disait Goethe, n'est pas tant où nous sommes, mais dans quelle direction nous nous en allons. On peut faire un constat de la réalité présente, le ici et maintenant de notre vie. On peut s'ouvrir une nouvelle direction. Une rigoureuse évaluation mène vers une déclaration d'intention. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ça mène aussi vers une nouvelle direction. Ça mène aussi ce que j'appelle vers une coûteuse décision. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Regardez bien ce que Scott Peck disait. Nous ne sommes pas venus au monde avec une carte routière. Nous devons décider de la créer. Le faire demande des efforts. Beaucoup ne veulent pas faire ces efforts. Leur carte est petite et désuète. Leur vision du monde est réduite et limitée. Décider. Une coûteuse décision. Je peux prendre conscience d'où je suis, au moment où je le suis. Vous pouvez ce matin facilement faire cet exercice-là. Certains, vous êtes en train de le faire simultanément avec cette prédication-là. Vous m'écoutez, vous commencez à évaluer votre situation, vous vous dites des choses. Vous vous dites des choses. Vous commencez à réfléchir. Puis vous dites, ouais, c'est vrai. Et vous commencez à m'imaginer aussi un petit peu ce que la vie pourrait être si vous changez de direction. Mais tout ça va passer par un processus que je sépare ce matin. J'arrête le film, on regarde les cases dans la bande du film. Une déclaration d'intention, je suis en train de faire dans ma tête. Un changement de direction, je pense que je suis pas dans la bonne direction. C'est une coûteuse décision, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ce matin, ma conviction, c'est juste de vous pousser ici à dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous devez prendre des décisions dans votre vie. Il y a des décisions qui sont malheureuses et des décisions qui sont coûteuses. C'est-à-dire que je sais que le jour que je prends cette décision-là, ça va changer le cours de ma vie. Pourquoi je dis coûteuse? Parce que ça me coûte quelque chose. Ça me coûte de peut-être changer mes relations. Ça va me coûter de changer mon style de vie. Ça va me coûter d'abandonner peut-être certaines personnes, d'abandonner certaines relations qui me nuisent plus qu'ils m'aident à progresser. Dans certains cas, peut-être c'est une coûteuse décision qui dit, écoute, je vais être obligé de changer d'approche, je ne peux pas rester dans ce milieu-là, dans cet univers-là. Je ne sais pas, moi. C'est vous, votre décision, c'est vous qui allez la prendre. C'est pas moi qui vais la prendre. Je ne mettrai pas de pression, vous prenez une décision à partir de mon point de vue à moi, à partir de votre réflexion à vous, puis à partir de votre vie à vous, à partir du résultat que vous avez eu dans votre vie jusqu'à ce jour. C'est vous qui devez prendre la décision. Troisième pas que fait le fils prodigue pour le ramener à la vie. Une courageuse action. Le texte mentionne, au verset 20, « Il se leva et alla vers son père. » Maintenant, regardez-moi ici un instant. Je veux vous faire réaliser quelque chose. Qu'une intention, c'est merveilleux, c'est super. C'est noble, c'est bien. Le travail intérieur est fascinant et irremplaçable, il faut le faire. On peut avoir une bonne intention, on peut avoir une bonne direction, on peut prendre des bonnes décisions, mais à un moment donné, lorsqu'on est assis à la table de notre vie, puis on va prendre des décisions. Il faut que je prenne une décision, je vais prendre des décisions. Correct, je suis décidé maintenant, c'est fait, ma décision elle est prise. Et si vous voyez, tout ce temps-là, il se passe quelque chose à l'intérieur, mais strictement rien n'a changé à l'extérieur. La seule chose qui va changer à l'extérieur, c'est une transcription de ce qui se passe à l'intérieur dans des actes concrets publics. faudrait bien que je dise à mes enfants que je les aime. C'est noble, c'est superbe, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est un cœur de père et de mère, faudrait que je le dise plus souvent. Mais tant que vous ne le dites pas, qu'ils ne l'entendent pas, ça change strictement rien à leur vie. Vous pouvez regarder la télé et voir ces images de famine, ces images de détresse en Haïti, ailleurs en Afrique, vous pouvez littéralement pleurer de compassion, vous pouvez littéralement mouiller l'écran de votre téléviseur. Je vous annonce une nouvelle ce matin, ça ne change strictement rien à leur condition à eux. Si votre intention, OK, votre direction et votre décision n'est pas basée sur quelque chose de concret, vous pouvez passer votre vie à vous imaginer ce que serait la vie dans un autre contexte, et à moins que vous passiez à l'action, que vous fassiez les téléphones que vous devez faire, de poser les gestes que vous devez poser, les choses ne changeront pas. Puis il y a des gens qui passent leur vie à rêver de cette façon-là, à s'imaginer. Et le travail d'imagination est fascinant et c'est correct jusqu'à un certain point, mais tant et aussi longtemps que ça ne se traduit pas par des actions concrètes, ça ne change rien. Et c'est là l'élément important ce matin pour vous tous. Tant que les choses ne se passent pas, tant que j'arrive pas à ce stade de prendre action, toute intention qui n'est pas suivie par une action ne change rien. La Bible nous dit, toi, reviens à ton Dieu. Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. Reviens, pose ce geste-là. Quatrième étape ou quatrième pas. Une sérieuse confession. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Encore une fois, regardez-moi, je vais vous saisir un petit peu ma pensée dans tout ça. On parle de réflexion, on parle d'évaluation, on parle d'action. Encore là, tout ça, c'est énorme. Toutes les actions, c'est important, mais le contenu des actions nous donne de l'information sur le cœur de l'individu. Il y a à peu près la moitié de cette salle ici ce matin, si je me fie sur mon expérience, qui ne sont pas capables de s'excuser. Puis il y a la moitié de l'autre salle qui s'excuse tout le temps. OK? Fait que dans tous les couples, c'est toujours le même phénomène. Il y en a un qui s'excuse tout le temps, puis l'autre qui s'excuse jamais. Maintenant, celui qui s'excuse jamais, je ne crois pas qu'il est méchant viscéralement, puis on en fait un être machiavélique. On en fait à quelqu'un qui ne traduit jamais ce qui se passe dans son corps dans des actes concrets. S'en va dans la voiture le matin, puis il se pense à la chicane qu'il y a eu la veille. Il dit, franchement, j'aurais jamais dû dire ça. Puis c'est vrai que c'est pas correct. Puis ça. Puis là, les heures passent et ces pensées-là s'évaporent. On retourne à la maison le soir, puis on fait comme si rien n'était. Mais il y a peu de gens que j'appelle courageux qui, avant de passer à autre chose, ou avant que tout ça s'évapore à jamais, ont le courage de faire les confessions qu'ils doivent faire. C'est pour ça que je parle d'une confession, je parle de dire les vraies choses. Le texte mentionne, c'est-à-dire que, vous savez, on appelle ça dans notre jargon québécois des promesses d'ivrogne. Quand quelqu'un, là, le lendemain d'une cuite, a toujours l'intention d'arrêter de boire. OK? Ça dure à peu près 24 heures, le temps que le corps se débarrasse un petit peu des effets pervers de l'alcool dans sa condition physique, dans sa physiologie. Mais après ça, les bonnes intentions s'évaporent. Il y a des gens courageux qui font une sérieuse confession. Puis le sens de confession dans le cadre de la Sainte Écriture, le terme confession, c'est homologuer. Homologos en français, en grec, qui veut dire homologuer, c'est-à-dire c'est une espèce d'entente. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une entente fédérale-provinciale, on parle d'homologuer le contenu de quelque chose. Alors, si je confesse quelque chose à Dieu, littéralement, je me présente devant lui en disant, « Seigneur, je pense que j'ai péché. » Effectivement, c'est pas beau ce que tu as fait. « Seigneur, je pense que je me base sur ta parole, c'était pas correct. » Effectivement, c'était pas correct. Regarde, il y a suffisamment d'arguments dans les Saintes Écritures, puis de faits, ou de versets, de contenu pour te confirmer, de vérité pour te confirmer que c'est vraiment pas correct ce que tu as fait. Dans ce texte-là, là, quand je confesse à Dieu, on fait une homologation, moi et lui. Lui, il reconnaît que t'es pécheur, mon âme. C'est vraiment pas beau ce que tu as fait. Puis moi, je reconnais, écoute, Seigneur, je suis pécheur. C'est vraiment pas beau ce que j'ai fait. Et la pensée est la suivante. Beaucoup de gens, ce stade-ci, à cause de notre culture occidentale moderne, refusent de reconnaître cette réalité de ce qui les anime dans l'intérieur de leur vie. D'homologuer quelque chose. On a cette peur viscérale que si je confesse, je vais donner du pouvoir aux autres. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je vais aller plus loin que ça. Je vais m'excuser l'espace d'un instant de détourner un petit peu ce verset de son cours. Mais je vous dirai, mon expérience avec des êtres humains m'amène à la même conclusion. Les êtres humains sont faciles. Sont enclins à pardonner les gens. Si vous, quelle catégorie de gens, ils sont enclins à pardonner? Ceux qui reconnaissent leur tort. C'est difficile. La façon qu'on a d'être désamorcé dans notre difficulté à pardonner, c'est quand l'autre reconnaît ses torts. Bon, il faudrait peut-être qu'on se parle. Justement, je vais te parler. Effectivement, ce que je t'ai dit hier, J'aurais jamais dû dire ça. Les mots que j'ai utilisés n'ont pas été les mots corrects. Je sais que je t'ai blessé, je sais que je t'ai affecté, je sais que tu as probablement passé quelques heures à te remettre un peu de ce que je t'ai dit. Je veux réellement, profondément te demander pardon. La personne qui décide de se venger, là, elle est d'accord avec moi qu'elle est légèrement désamorcée. Bon, mais là, je veux me revenger. Excuse-moi, je sais que tu as raison de te venger. Puis je te dis, si tu veux te venger, venge-toi. Je comprends, je réalise que j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. Voyez-vous qu'on est en train de désamorcer les choses. Dans notre nature, quand quelqu'un vit quelque chose comme ça, ou s'exprime de cette façon, on dit, écoute, laisse faire, c'est correct, c'est beau, laisse faire, on n'en parle plus. Là. Pourquoi? Parce qu'on est en sécurité, parce que la leçon a été apprise, parce qu'il a reconnu sa participation à la situation qui s'est produite. Là, on est loin de, en tout cas, écoute, je ne sais pas, mais si jamais tu penses que peut-être qu'à cours de route, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas comment, j'aurais pu faire quelque chose, mais je te demande pardon. Maintenant, on appelle ça un package deal. Écoute, je te demander pardon pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. En quoi que je recommençais peut-être, je ne sais pas quand, je ne sais pas juste où quand, mais peut-être à faire quelque chose. Dans le texte ici, il y a une confession courageuse où le fils revient vers son père, sachant qu'il a lésé son père. Sachant qu'on ne sait pas pendant combien d'années il a laissé son père dans ce tourment-là, dans cette condition-là d'un cœur de père qui cherche et qui attend et qui aspire et qui espère. Et ce fils le reconnaît. Qui a péché, littéralement, qui a blessé, qui a affecté, que la décision de sa vie a affecté les gens autour de lui. Vous savez, c'est intéressant, Chesterton, un auteur anglais, a dit un jour, le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme et celui qui se vérifie facilement à la lecture du journal quotidien. Pas une définition, une démonstration théologique du péché, pas une définition, mais une démonstration, acheter le journal de Montréal à chaque jour. Tous ceux qui ne croient pas ça, achetez-leur le Journal de Montréal et demandez-leur une explication pour tout ce qui se passe dans le Journal de Montréal. En ce moment, le film qui fascine l'imaginaire québécois, c'est le film d'horreur L'Enfant Martyr. Et pourquoi c'est fascinant? Parce que on a l'impression que c'est un drame qui est grave et tout ça. Et bien sûr, ça l'est définitivement que ça l'est. Mais la sensibilisation au film pour ressources des services sociaux, c'est tout le monde peut poser des gestes comme ça. Tout le monde a le goût de juger les autres qui posent des tels gestes. Mais très peu sont en train de regarder un petit peu. Est-ce que moi, je fais des choses pas correctes à un moment donné? On peut justifier les conditions sociales, on peut justifier le contexte social. Dans un journal cette semaine, ça disait c'était la faute du clergé à l'époque. Puis le comédien qui faisait le rôle principal a dit, écoutez, il n'y en a plus de clergé aujourd'hui. Là. Fait que ça peut pas être leur faute, mais des phénomènes se passent encore. Il y a encore des enfants qui sont abusés, qui sont blessés aujourd'hui. Mais on cherche quelqu'un d'autre quelque part. Puis la réponse est à l'intérieur de chacun de nous. On a ce bug dans notre système informatique humain qui s'appelle le péché. On est attaqué par un virus intérieur qui nous amène à poser des gestes qu'on ne devrait pas poser, à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Et la stratégie, c'est pas de la nier, c'est de la confesser. On le confesse à Dieu, on confesse aussi aux gens qu'on a lésés. Et ça, c'est courageux parce qu'il faut affronter des choses, il faut se mouiller vers la main, c'est pas toujours facile. Cinquième et dernière, je vais demander aux musiciens de s'approcher. Ce que j'appelle une glorieuse conclusion. Le fils vit tout ça. Il se lève, il s'en va vers son père, puis littéralement verbalise cette réalité-là. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis même pas digne de taper ton fils. Le texte mentionne que le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et amenez le veau gras et tuez-le. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le texte mentionne dans la parabole, « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Ce qui est vrai pour le fils prodigue est vrai pour chacun de nous. Jésus a dit un jour, « Moi, je suis venu. » Voici pourquoi je suis venu. « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'ils l'aient en abondance. » Cette réalité-là. Il n'y a pas... Laissez-moi vous dire ce matin que je pourrais vous illustrer toute une glorieuse conclusion merveilleuse de votre propre vie. Je pourrais travailler votre imagination en pointant, regardez ce que serait la vie dans telle situation, dans telle autre situation. Et effectivement, les choses peuvent se produire. Votre vie peut devenir autre chose que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas de glorieuse conclusion qui ne soit précédée par une réflexion sérieuse, par une rigoureuse évaluation, par une courageuse action, puis par une sérieuse confession. Il n'y a pas de glorieuse conclusion sans ces étapes précédentes-là. Je peux pas le faire ce matin. Il n'y a pas de glorieuse conclusion sans les quatre pas précédents. Vous savez, cette histoire de l'enfant prodigue ne révèle pas juste ou seulement la réalité de la faiblesse humaine portée vers le gâchis, mais surtout la réalité de la puissance divine qui prend en charge la vie d'un individu. Au lieu du rejet, il y a l'accueil. On ne sait pas trop ce qu'a vécu cet enfant prodigue-là, mais comme petit Québécois et petite Québécoise, on peut facilement s'imaginer quand on faisait un mauvais coup quand on était jeune, il fallait revenir à la maison. OK? On appelle une expression pour nos amis de la France, être reçu avec une brique et un fanal. Okay? Je ne donnerai pas le cours de ce que ça veut dire, mais vous demanderez à des amis québécois, ils vont vous le dire. C'est qu'on sait qu'en revenant à la maison, on va avoir affaire à une réaction. Et je ne sais pas, on peut juste l'imaginer ce qu'a vécu le fils prodigue, mais en revenant à la maison, il n'y avait pas un père frustré, il n'y avait pas un père agressif, il n'y a pas un père qui dit « Attends, marche à la maison, on va avoir une discussion, moi puis toi. » Il y a un père qui l'accueille sans poser de questions littéralement. Il y a un père qui l'accueille. Et cette image-là, c'est l'image d'un père qui nous accueille, l'image de Dieu qui nous accueille tous et chacun. Nous, on est habitués de compter, de mesurer, de quantifier les choses dans la vie des gens. On est capable de mesurer ce que tel crime peut donner comme sentence. On s'attend à des choses. On arrive devant Dieu, on projette ça sur en disant « Dieu va réagir de la même façon ». Dans ce contexte ici, le Père, je n'entends pas dans ces considérations-là parce que c'est trop long, c'est une nouvelle prédication, mais l'attitude du Père démontre cet accueil extraordinaire, cette image extraordinaire. J'ai eu l'histoire cette semaine d'une jeune fille qui s'appelle Christina, qui est l'histoire qui est vécue par des milliers, sinon des millions d'enfants à travers le monde. Vous savez, dans les phénomènes urbains modernes, dans beaucoup de portions de cette planète Terre, en particulier en Amérique latine, il y a des gens qui vivent la disette, la pauvreté dans les petits villages et qui s'imaginent un pays lointain qui s'appelle la ville. Or, dans la mentalité des enfants d'un village, des jeunes adolescents d'un village, adolescents, l'imaginaire que peut représenter la ville est extraordinaire. Si eux arrivent à regarder la télé, ils voient la vie de la ville, ils voient la vie des gens. À la télé, vous savez, ça va tellement bien. Or le téléjournal, là, le reste de la vie, c'est tellement facile. Les artistes sont heureux, ils sont philosophes, ils savent tout de la vie. Tous les gens les écoutent. Alors, tu te retrouves avec des milliers, des millions de jeunes qui regardent cette télé-là et qui regardent ces messages-là et ils disent, écoute, il y a un espoir dans cette ville-là. Il y a une terre qui m'est promise, ça s'appelle la grande ville, la grande métropole. C'est ça, cette jeune fille-là qui, un jour, décide de quitter sa mère. Sa mère était veuve, elle avait assumé, dans ce petit village de l'Amérique latine, elle avait assumé toute cette vie de famille, avec la disette, avec les moyens limités du bord. Puis cette grande adolescente-là qui se met à réfléchir à ce que serait la vie. Quand les musiciens commencent à jouer tout doucement, elle se met à réfléchir à ce que serait la vie. Maintenant, vous et moi, à cause de tout ce que nous avons lu dans le passé, de ces nouvelles dans le journal, on est capable de s'imaginer le scénario possible qui est arrivé. Effectivement, cette jeune fille-là, qui s'appelle Christina, elle est partie, elle est allée à la ville, et sa mère n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant plusieurs années. Mais comme tous les cœurs de mère, tous les cœurs de père bien portants, la quête de cette mère-là, c'est que ma vie n'est pas pareille tant que ma fille ne se retrouverait pas ma fille. Et le phénomène est arrivé un jour où elle s'en va à la grande ville, puis elle rentre dans l'enceinte d'un grand hôtel où se tenaient les prostituées, puis elle voit sa petite fille qu'elle a pris dans ses bras quand elle était enfant, qu'elle a allaité quand elle était enfant, qu'elle a vu jouer, qu'elle a montré à marcher, descendre les marches de l'hôtel avec les grands souliers, les petites robes courtes, le maquillage excessif. Cette jeune fille était rendue une prostituée. Là, la mère, l'espace d'un instant, le cœur brisé, trouve pas les mots, et le contact visuel se fait entre la mère et la fille. Maintenant, c'est une scène fantastique parce que ça a pris de la part de la mère, ce que j'appelle en termes très, très simples, une mise à jour de son fichier. Parce que la dernière image qu'elle avait de sa fille, c'était pas celle-là. L'image de la fille qui avait quitté la campagne. Peut-être même que la mère s'imaginait que la ville à grande ville serait mieux, peut-être qu'elle ferait des études, puis qu'un jour elle deviendrait riche, puis elle reviendrait avec la limousine, la Mercedes, puis elle irait chercher sa mère et des enfants. Je ne sais pas, on ne peut pas s'imaginer à ce moment-là jusqu'où peut se rendre la pensée humaine. La mère est confrontée à sa fille qui descend les marches, comme seules les prostituées peuvent le faire, avec ce maquillage-là de cette petite fille-là. Elle est fascinée avec le fait qu'elle connaissait une version de sa fille, elle voit une autre version de sa fille. Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est toi? La mère n'avait pas changé, mais la fille avait changé. Et ce qui me fascinait à l'histoire, c'est pas tant cette scène-là, c'est ce que la mère a dit. La mère s'est écriée dans le lobby de l'hôtel. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu es devenu, ça m'importe pas. S'il te plaît, reviens à la maison. Et là, c'est fascinant, parce que c'est l'expression du cœur de Dieu. Puis ce matin, j'aurais à vous dire quelque chose, je vous dirais... Ça ne nous importe pas ici, dans cette enceinte. Ça ne m'importe pas ce que vous êtes. Ça m'importe pas ce que vous avez fait. Ça n'importe pas à Dieu ce que vous êtes. Dieu ne fait pas exception de personne. Peut-être vous, vous le faites, vous vous mesurez avec les gens. Peut-être vous voyez qu'une cravate, un beau compère, vous dites, écoute, moi, c'est pas mon genre, c'est pas ma nature. C'est pas ça qui est important. Peu importe ce qui vous êtes. Peu importe ce que vous êtes. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe le passé. Aujourd'hui, revenez à la maison. Aujourd'hui, revenez à la maison. Peu importe jusqu'où cette quête dans votre vie vous a amené. Peu importe le pays jusqu'où vous vous êtes rendu. Le pays de la colère, le pays des dépendances de toutes sortes, le pays secret et caché que seul vous connaissez. Peu importe jusqu'où vous vous êtes rendu. Vous êtes-vous rendu compte qu'en ce moment, vous êtes dans un cul-de-sac incroyable? Vous êtes rendu déjà trop loin? Puis ce matin, moi, je vous dis, peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce matin, revenez donc à la maison. Essayez de vous imaginer le retour à la maison. J'ai pas pu le faire ce matin, mais un de mes chanteurs préférés dans le monde séculier, c'est Serge Reggiani, un chanteur français, qui a une chanson qui est fascinante, qui s'appelle « L'Italien », qui raconte l'histoire d'un gars qui a quitté sa femme. Puis le texte est fascinant parce qu'il raconte, il dit, « Tu sais bien, j'étais parti me chercher des allumettes et je me suis rendu jusqu'au Massachusetts, jusqu'à l'État américain du Mass, comme on dit communément. » Et toutes les paroles jouent comme ça. Puis un jour, il revient à la maison. Il dit, là je veux revenir, mais bien sûr, la fille, elle n'est pas au courant de sa femme, elle n'est pas au courant de rien. Il fait juste chanter la chanson en disant, « Là, je suis devant la porte, puis la lumière est allumée. Est-ce que le chien aboie encore? Est-ce que tu es encore là? » Et là, c'est son imagination. Puis là, chaque couplet est fascinant parce qu'il joue avec ça. Il dit, j'ai essayé tout dans la vie. J'ai connu les femmes, j'ai connu l'argent, j'ai fait les métiers. Mais là, il dit, je veux venir à la maison. Puis le texte, c'est un texte qui termine seulement comme Reggiani peut le faire avec sa voix rauque. C'est un trait de tristesse. Parce que lorsqu'il est prêt à revenir à la maison, il s'aperçoit que le chien qui est à la maison, ce n'est plus son chien. C'est le chien du nouveau mari et que la lumière est à s'éteint. La chanson termine comme ça. Alors, c'est touchant, c'est blessant, c'est l'histoire de bien des gens. Ce matin, je vous dis quelque chose. Si vous revenez à la maison ce matin, il y a une place qui vous attend. La maison, c'est pas ici, dans cet immeuble. La maison, c'est un état, c'est une condition. Dieu vous dit, cette année, c'est assez d'errer à travers les champs, d'errer à travers les routes poussiéreuses de ce monde. Voulez-vous revenir à la maison ce matin? Ce matin, j'insisterai pas plus sur cette conclusion. Je veux juste vous dire, peut-être que vous êtes des enfants prodigues, des fils et des filles prodigues, qui a besoin de retourner à la maison, de revenir à la maison. Maintenant, il y a des gens partant dans cette salle, je vous vois, vous acquiescez de la tête, c'est ce qu'on appelle une déclaration d'intention. C'est superbe. Moi, je crois que vous êtes remué peut-être à l'intérieur de vous, mais vous allez sortir d'ici, la vie va vous happer, et vous allez reprendre le chemin tel qu'il était auparavant. Ou on peut traduire ce matin cette déclaration d'intention dans une action précise, tangible. Je vais vous demander ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant qu'on a chanté un petit peu plus tôt, « J'ai besoin de toi ». Juste comme expression, volontaire, oubliez qui est autour de vous. Oubliez cette église, oubliez les gens. Faites juste entendre la voix du Père qui vous dit, « Reviens à la maison, je voudrais ce matin que tu reviennes à la maison. Moi, je t'attends, je suis là, je t'attends. Je peux pas aller te chercher jusqu'à ce que tu es, mais je peux t'inviter les bras tendus en disant, « La lumière est encore allumée, la table t'attend. Il y en a pas pour toi, il y a un festin qui t'attend. J'ai du linge propre pour toi. J'ai un anneau pour rétablir ton statut. On va te laver, on va prendre soin de toi. Puis tu vas devenir celui que tu aurais toujours dû être si ce n'était pas d'appuyer cette route-là vers ce pays lointain. » Est-ce que vous voulez le faire ce matin? Maintenant que vous chantez à quelques reprises, je vous demande juste de vous approcher de moi, de vous avancer ici en avant, comme manifestation de ce geste tangible d'action en disant, « Seigneur, je veux revenir à la maison ce matin. Fini tout ça, je veux revenir à la maison. » Peu importe ce que vous avez fait ce matin, peu importe ce que vous êtes devenu, peu importe le chemin parcouru, c'est pas ça qui est important. S'il vous plaît, revenez à la maison ce matin. Revenez à la maison ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Laisse-moi entendre ta voix qui m'attire à toi. Ne guidant pas à passer le chemin étroit. Ne m'abandonne Après
fin de matinée, avant de quitter cette classe pour toutes les occupations normales de la journée d'aujourd'hui, peut-être certains c'est les loisirs, le repas et tout ça. Peut-être quelque chose de plus important en ce moment, le repas peut retarder quelques instants, les activités de plein air peuvent retarder quelques instants. Ça c'est la vie simple, la vie de tous les jours. Il y a une vie que Dieu offre, parce que la pensée de ce fils prodigue et la réaction du Père, c'est que mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Mon fils qui était mort, on ne parle pas d'une mort physique, bien sûr. On parle d'un fils qui a quitté pour ce pays lointain, qui a perdu en chemin, qui a perdu sa vie littéralement, ce que sa vie aurait pu être. Ce matin, encore une fois, permettez-moi d'insister, si c'est votre situation ce matin, vous êtes ici aujourd'hui, prenez cette occasion pour que votre vie change. Prenez ce geste d'action, cette manifestation de votre intention intérieure, de ce que votre vie pourrait être. Passez de la mort à la vie. Passez d'une vie perdue à une vie retrouvée. Pensez à la vie telle que Dieu veut vous la donner, à cette vie telle que vous aspirez même au plus profond de votre être à atteindre, à vivre pleinement. Est-ce qu'il existe une vie? Est-ce que ce sont des sornettes, des paroles envoyées en l'air ou il existe une autre vie que celle-là? Dites-moi vous répondre, bien sûr, que la Bible en parle explicitement de toutes mille et une façons de cette vie-là, de choisir la vie, de saisir la vie. Ce matin, pendant qu'on le chante une dernière fois, pendant que l'ensemble de cette assemblée se lève, je vous demande encore à vous, homme ou femme, jeune homme, jeune fille, à prendre cette décision ce matin, à appuyer cette décision par un geste actif, à vous présenter devant moi simplement comme un geste devant Dieu en disant, Seigneur, moi je reviens à la maison ce matin, je reviens à cette vie que tu as pour moi, parce que j'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi ce matin. Alléluia, j'ai besoin de toi ce matin, Seigneur Jésus.
Laisse-moi entendre ta voix qui m'attire à toi.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.